jusqu'au verset 17. 1 Pierre 2, verset 11. Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Soyez soumis, à cause du Seigneur, à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir les malfaiteurs et approuver les gens de bien. Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensés. Étant libres, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu. Honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu, honorez le roi. Nous te remercions, Seigneur, encore pour ta grâce et nous te prions que tu nous diriges, que tu nous guides par ton esprit afin que nous saisissions les choses qui viennent de toi pour ta gloire et pour notre bien. Amen. Les versets 11 jusqu'au verset 17 ont pour thème central, si vous voyez bien, un peu, on pourrait dire, le rapport qu'entretiennent les chrétiens, que doivent entretenir les chrétiens avec les autorités. Ici, dans le verset 13, sont les autorités, particulièrement les autorités gouvernementales. Mais Pierre commence, après avoir parlé, rappelez-vous, à ces chrétiens en leur disant « Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Hein, » cette citoyenneté différente du croyant, il leur dit que vous êtes, rappelez-vous tout, premier verset, étrangers, hein, vous êtes des étrangers dispersés dans le pont, la Cappadoce, l'Asie, la Bithynie, etc. Et puis là, il dit au verset 11, bien aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs. Ils sont encore là, considérés comme les étrangers et des voyageurs dans le monde dans lequel ils vivent, dans la société dans laquelle ils vivent, dans la ville dans, ou dans les villes, puisqu'ils sont dispersés, dans lesquelles ils vivent. Et dans la deuxième lettre, au chapitre 3, verset 13, l'apôtre Pierre dit même « Nous attendons de nouveaux cieux et une nouvelle terre. » Donc le chrétien ici est considéré vraiment comme l'étranger, quelqu'un qui passe. Hein, il n'a pas il n'est pas résident permanent sur la terre. Et cette qualité d'étranger, comme ça arrive souvent dans la vie courante, hein, pousse parfois à prendre quelques distances par rapport à la société dans laquelle on vit. Quand on est un étranger, eh bien, parfois, on met un petit peu de... Les autres mettent une distance, probablement, mais nous aussi, nous mettons une distance par rapport à la société dans laquelle on vit. On peut dire, moi, je suis pas français, je suis de telle nationalité, je fais comme ceci, etc., etc. Et pour le chrétien, eh bien... Le fait de dire qu'ils sont des étrangers et des voyageurs sur la terre, eh bien, ça a aussi pour but de mettre une certaine distanciation. Et beaucoup de choses contribuent à cette distanciation-là. Déjà, l'apôtre Pierre parlait de cette nouvelle naissance. Vous avez été régénérés. Donc, ça, c'est un nouveau peuple, une nouvelle personne. Tout ça, ce sont des choses qui peuvent, mettre une distanciation. Il avait parlé, rappelez-vous, de l'espérance vivante, qui est l'espérance des chrétiens, autrement dit, en comparaison avec les espérances terrestres que l'on peut avoir, et qui sont des espérances éphémères. Et donc, cela permet de relativiser les espérances humaines. Il avait parlé d'un héritage qui est réservé où ? Dans les cieux. Donc, c'est là-haut que les choses se passent, et pas sur la terre, donc ce qui dans l'esprit encore met une certaine distance. Et ce caractère d'étranger et voyageur peut nourrir à l'intérieur même du cœur des convoitises charnelles, puisqu'il dit, bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme, et cela peut pousser le croyant à se désolidariser de la société dans laquelle il vit, parce qu'il est un chrétien, et on regarde tout le reste comme hors de nous. Nous sommes les citoyens des cieux, d'où nous attendons Jésus-Christ, qui viendra pour nous transformer. Et on peut regarder avec un certain mépris, peut-être, la société dans laquelle on vit, ou le gouvernement sous lequel on vit. Et donc, cette citoyenneté céleste ne doit pas, selon ce que Pierre dit ici, pour autant nous faire oublier aux croyants qu'ils vivent dans le monde et que leur nationalité en Christ doit se traduire par une bonne conduite au milieu des païens. C'est pour ça qu'il dit, comme étrangers et voyageurs, on est différents, les aspirations sont différentes, la destinée est différente, mais néanmoins, vous devez vivre en montrant une bonne conduite au milieu des païens. Et il dit, afin que là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Autrement dit, l'attitude du croyant, citoyen des cieux, étranger et voyageur sur la terre, son attitude au milieu de la société dans laquelle il vit, doit laisser une trace pour le jour où Dieu visitera les païens, que ce témoignage qui a été laissé serve de tremplin, on pourrait dire, à la gloire de Dieu. Donc c'est toute une chose très importante qui est commandée ici. Et on pourrait dire que le domaine particulier, en tout cas avec lequel l'apôtre Pierre commence, dans lequel le chrétien doit montrer une bonne conduite, c'est dans ses rapports avec les autorités. Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes. Et s'il y a un domaine où, parfois, le chrétien a du mal, c'est peut-être dans son rapport avec la société qui entoure, le gouvernement, on pourrait dire. Et à l'époque de Jésus, rappelez-vous, les Juifs qui savaient appartenir au peuple de Dieu avaient du mal avec les Romains. Ils étaient sous occupation romaine. Et c'est pour ça qu'ils venaient avec des questions du style « Dis-nous, que ton sang est-il permis de payer le tribut à César ?» Voilà, à ce gouvernement qu'il y a au-dessus de nous, ce gouvernement impérialiste qu'il y a au-dessus de nous. Et vous vous souvenez de la réponse de Jésus qui a dit « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu ». Et l'apôtre Paul, dans Romains chapitre 13, reprendra un petit peu ce thème-là aussi lorsqu'il parlera de l'attitude des chrétiens envers les autorités. Bien sûr, la réponse qu'attendaient ceux qui posaient à Jésus la question, c'était non. Faut-il payer le tribut à César pour eux dans leur esprit? Eh bien, c'est non. C'est un gouvernement païen, etc. On ne peut pas se soumettre à ces taxes qui nous sont imposées. Et on sait que les Juifs n'hésitaient pas à se soulever, contre l'autorité humaine, et la grande révolte dans les années 66 jusqu'à 70, a conduit à la destruction totale par les Romains, les armées des Titus de Jérusalem. Le temple a été détruit, ils ont été déportés, etc. Donc souvent la vie d'étrangers, bien sûr, ce que Pierre dit ici, peut amener les gens à résister, quelque part aux autorités sous lesquelles on est. Mais en tant que chrétien, le caractère d'étranger et voyageur ne doit pas consister à résister aux autorités, mais à manifester une bonne conduite au milieu des païens. Et particulièrement, c'est ce que nous voulons voir là, ici, à se soumettre à toute autorité établie parmi les hommes. Mais qu'est-ce que ça veut dire et comment on doit le faire? C'est ce que nous voulons voir à partir de ce passage ce matin. Premièrement, l'apôtre Pierre dit ici, donc je vais relire les versets 13, « Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. » Donc, toute autorité établie parmi les hommes. Mais établie par qui ? Par Dieu ou par les hommes ? Mais le terme ici, c'est toute création, ce qui a été créé, hein, c'est un peu le sens, création humaine. Donc, si vous avez d'autres traductions, vous allez voir, hein, à toute institution humaine. D'accord ? À tout gouvernement humain. L'apôtre Pierre ne dit pas très explicitement qu'ils ont été institués par Dieu, mais on comprend quand même dans ce qu'il dit, quand il arrive, car c'est la volonté de Dieu. Bon, on comprend ici que rien ne se fait sans la volonté de Dieu. Et on peut voir dans le reste de l'Écriture que c'est bien Dieu qui établit les autorités. Et donc le premier point que je voudrais souligner ici, c'est que, et que l'apôtre Pierre, de manière implicite, souligne, c'est que Dieu contrôle toutes les autorités gouvernementales humaines. Dieu contrôle toutes les autorités gouvernementales humaines. Nous sommes amenés, appelés en tant qu'étrangers et voyageurs, à nous soumettre aux autorités parce que c'est lui qui établit, qui contrôle toute autorité gouvernementale humaine. Toute autorité humaine, toutes les autorités humaines sont instituées par Dieu. Est-ce que vous croyez ça? Toutes les autorités humaines sont instituées par Dieu. Alors, si vous le croyez comme ça parce qu'on l'a dit, c'est pas bien. Mais si vous le croyez parce que la parole le dit, ça, c'est bien. Donc, on va regarder où est-ce que c'est écrit. Je vous demande de regarder en Romains chapitre 13. Romains chapitre 13. Et au verset 1, l'apôtre Paul, comme l'apôtre Pierre, ils sont contemporains. On est d'accord? Et donc, ils sont sous le même type de régime quand ils écrivent ça. Romains chapitre 13, l'apôtre Paul dit que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. La même chose que ce que Pierre dit, ok? Car, voilà la raison qu'il donne, il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et puis il va, au cas où on n'est pas bien compris, et toute autorité qui existe ont été instituées de Dieu. Donc, autrement dit, il dit que Dieu a institué toutes les autorités humaines. Toutes, sans exception. Toutes. Alors vous dites, peut-être, vous avez dans votre tête quelques gouvernements que vous avez pu, hein, dans vos pays, parfois où, voilà, c'est le, hein, comment dirais-je, c'est les ethnies qui, voilà, chacun, on c'est par famille que les choses se passent, tribales, etc. Institués par Dieu. Vous avez peut-être en tête des gouvernements dictatoriaux qui ont fait beaucoup de tort. La Bible dit que toute autorité est instituée par Dieu. Mais c'est pas Dieu, ce sont les hommes qui ont... La Bible dit que toutes les autorités sont instituées par Dieu. Et l'apôtre Paul était, quand il écrit ça, il est sous quel empereur? Vous savez lequel c'était? Néron, celui qui a fait utiliser les chrétiens comme des torches dans la ville de Rome pour les faire brûler. C'est à ce gouvernement-là qu'il demande de se soumettre et dont il dit que toute autorité a été instituée par Dieu. Donc nous devons croire ce que la parole de Dieu dit ici. On veut bien accorder cette qualité d'institution divine à des gouvernements qui nous semblent de bons gouvernements. Et puis les écarter pour tous les gouvernements dictatoriaux et sanguinaires. Mais Pierre et Paul soulignent que les gouvernements sont institués par Dieu, quel que soit le type. Il est institué par Dieu. À quelque moment de l'histoire qu'il se situe, il est institué par Dieu. De quelque lieu de la planète, il est institué par Dieu. Il ne saurait exister un gouvernement qui ne soit institué par Dieu.
Parce que Dieu contrôle toute chose.
C'est ce que la Bible dit. Alors nous avons peut-être du mal à comprendre dans quel sens ça se fait, mais c'est ce que la Bible dit. Il faut commencer par accepter cela. Et quand il est demandé de nous soumettre, c'est parce que toute autorité est instituée par Dieu. Dieu est celui qui institue l'autorité, le principe même de l'autorité et de la gouvernance. Souvenons-nous des paroles que Dieu prononce concernant Pharaon dans Exode chapitre 9. Il dit, par l'intermédiaire de Moïse, il fait dire à Pharaon, « Si j'ai étendu ma main et que je t'eusse frappé, si j'avais étendu ma main et que je t'eusse frappé par la mortalité et ton peuple, tu aurais disparu. » Autrement dit, Dieu dit à Pharaon, « J'aurais pu étendre ma main, te tuer et tu aurais disparu. Je ne l'ai pas fait. » Et il dit, « Tu aurais disparu de la terre. » Mais, dit-il, je t'ai laissé subsister afin que tu vois ma puissance et que l'on publie mon nom par toute la terre. Ce pharaon qui a fait souffrir le peuple d'Israël, qui l'a réduit à un dur esclavage, n'est-ce pas, qui lui faisait aller chercher la paille pour les briques, puis encore faire les briques, et puis ils étaient frappés, le peuple criait à Dieu. Dieu dit, je t'ai laissé subsister, c'est moi qui t'ai laissé subsister. Il aurait pu l'enlever, moi qui t'ai laissé subsister. Daniel dit dans Daniel chapitre 2, c'est lui qui, en parlant de Dieu, qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il élève, il abaisse. Ok? Élection régionale, Dieu. Élection présidentielle, Dieu. Dictateur, Dieu. C'est lui qui établit cela, tout en restant le Dieu saint, le Dieu sage, le Dieu miséricordieux. Il nous faut recevoir cela. Jésus, dans son procès, rappelez-vous, quand il parlait avec Pilate, dans un entretien, et puis Pilate lui pose une question, Pilate lui dit, en Jean chapitre 19, verset 10, « D'où es-tu ?» Et puis la Bible dit que Jésus ne répond pas. Et Pilate lui dit, « Est-ce à moi que tu ne parles pas ? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te libérer et que j'ai le pouvoir de te faire crucifier ? Je suis gouverneur. Tu pourrais me parler. Je pourrais t'arranger la situation. » Vous savez ce que Jésus répond ? Écoutez la réponse de Jésus. « Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné de... » D'où ? D'en haut. D'en haut. Autrement dit, ce que tu peux faire ou ne pas faire, ça t'est donné par mon Père. Peut-être tu vas me crucifier, ça t'est donné par mon Père. Tu es peut-être un bon gouverneur. Ça t'est donné par mon Père. Tu es un mauvais. Ça t'est donné par mon Père. Il t'a établi. C'est lui qui t'a établi. Et qui te donne le pouvoir de faire ce que tu peux faire. Et c'est important. C'est comme cela. Ça nous montre comment est-ce que nous devons considérer les pouvoirs, non pas avec mépris, pas du tout. Jésus n'a pas de mépris à l'égard de Pilate. Il lui fait simplement voir que ce pouvoir qu'il a n'est qu'un pouvoir conféré, hein, par Dieu. Et c'est ainsi qu'on doit considérer tous les pouvoirs gouvernementaux. Non pas avoir peur, en tremblant en face, mais en disant que c'est Dieu qui est au contrôle, même de ce gouvernement-là. Et de nos jours, les hommes se battent, n'est-ce pas, pour être élus dirigeants. Mais c'est Dieu qui institue celui qu'il a choisi d'instituer. Ça ne veut pas dire que les hommes ne doivent pas prendre leurs responsabilités, voter ou faire des choses, mais... Le résultat qui sort, nous devons être certains que Dieu l'a permis et Dieu est au contrôle du résultat qui sort. Même si c'est l'homme ou la femme politique que vous ne voudriez jamais. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas remplir ses responsabilités. Donc Dieu contrôle toute situation et toute autorité humaine sont instituées par Dieu. Les autorités humaines ont une mission conférée par Dieu. Pierre dit, soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. Autrement dit, les autorités gouvernementales ont pour mission la restriction du mal et la promotion du bien. Ce que Dieu a prévu. Alors, elles le remplissent plus ou moins bien. Elles le font presque pas, ou elles le font un petit peu, ou elles le font bien. Ça, c'est autre chose. Mais la Bible est claire que Dieu confère une mission au gouvernement. Donc, quand nous pensons à un gouvernement, nous pouvons penser Dieu a conféré à ces personnes-là, à ce système-là, la responsabilité de promouvoir le bien et de restreindre le mal. Et l'apôtre Paul, dans Romains chapitre 13, dit exactement la même chose. Je vous lis. On avait commencé à lire Romains chapitre 13, versets 1 et 2. Au verset 3, il dit « Veux-tu ne pas craindre l'autorité ? Fais-le bien et tu auras son approbation. » Il approuve le bien et il restreint le mal. Il dit, verset 4, « Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, étant serviteur de Dieu, pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. » Alors, on n'a pas le droit de se venger soi-même, l'Écriture. Il y a des gens qui disent, « Ah, mais la Bible, c'est écrit œil pour œil et dent pour dent. Si on m'arrache un œil, j'arrache aussi l'œil à l'autre. Si on me dit une mauvaise parole, je dis une mauvaise parole à l'autre. Si on me donne un coup de poing, j'en mets aussi un autre. » C'est pas ça que la Bible dit. Le commandement n'était pas à destination des individus, mais des juges. D'accord? Donc c'est pas, personnellement, nous n'avons pas le droit ici d'exercer le jugement. Dieu confère cela à qui? Aux autorités. C'est ce qu'on voit ici. L'apôtre Paul dit, il porte l'épée étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir ceux qui font le mal. Donc les gouvernements doivent, c'est la mission que Dieu leur donne, agir pour promouvoir le bien et restreindre le mal. Vous dites peut-être oui, mais ce n'est pas toujours ce qu'on voit. Certes. Mais vous voulez vivre sous un gouvernement qui ne fait pas bien ce travail-là ou sous pas de gouvernement du tout? Si on avait le choix. Des gens qui disent, ce serait bien s'il n'y avait pas de gouvernement, rien pour nous commander, etc. Hein? Pas de gouvernement. Imaginez un monde sans gouvernement du tout. Du tout. Où chacun fait ce qu'il veut. Je peux vous dire que les meurtres montreraient en flèche, hein? La destruction, tout. Ce serait terrible. D'accord? Donc, comme quelqu'un disait, il vaut mieux un mauvais gouvernement que pas de gouvernement du tout. Et donc, on voit bien que c'est une bonne chose que Dieu et que même un mauvais gouvernement restreint le mal. Hein? Alors, on a peut-être parfois l'impression qu'ils restreignent le bien et qu'ils approuvent le mal. C'est un peu vrai, des fois. Mais néanmoins, globalement, quand on regarde, même un mauvais gouvernement fait cela. Et donc, Paul souligne que ceux qui exercent l'autorité politique ou judiciaire sont des serviteurs de Dieu. Il dit « le magistrat est serviteur de Dieu ». Et le principe donc de l'autorité est de Dieu, mais aussi l'instrument même de l'autorité est de Dieu. Qu'il soit de type totalitaire, on l'a déjà dit, libéral, sociodémocrate, il est le serviteur de Dieu. Et donc les autorités doivent d'une part inspirer la terreur à ceux qui font le mal et doivent approuver ceux qui font le bien. C'est la mission que Dieu leur confie. Et ils doivent le faire, ils doivent l'exercer. Alors malheureusement, on a abandonné, je crois, cette mission de restreindre le mal avec des outils que Dieu avait donnés. Hein, et on a l'impression que voilà, le mal est ce qui triomphe de plus en plus. Mais néanmoins, la Bible est claire, c'est ça, la mission que Dieu a donnée aux autorités. Et donc les autorités sont instituées par Dieu, elles ont une mission conférée par Dieu. Les autorités humaines ont des limites aussi qui sont imposées par Dieu. Le pouvoir des autorités doit s'exercer dans la limite prévue par Dieu. C'est selon la volonté de Dieu. Ils ne doivent pas abuser de leur pouvoir, bien sûr, en violant la loi, ni en établissant des lois où elles ne peuvent pas établir aussi des lois. Quand un gouvernement demande à une, montre à une église comment elle doit prier, c'est pas de son domaine. C'est pas de son domaine. Donc, il y a des limites qu'ils ne peuvent pas dépasser. Et elle doit exercer toujours la justice, la loi, en respectant elle-même la loi. Et l'apôtre Paul a été confronté à un moment donné à un juge qui le jugeait en violant la loi. Enfin, vous vous rappelez de cela? Il commence à parler dans Actes chapitre 23, et puis le souverain sacrificateur, qui est juge donc, envoie quelqu'un pour qu'il puisse frapper l'apôtre Paul sur la bouche. Et l'apôtre Paul dit, répond, qu'il avait le sang aussi, hein, il dit, Dieu te frappera, muraille blanchie. Il dit, tu es assis pour juger selon la loi, et tu violes la loi en ordonnant qu'on me frappe. Donc ici, on avait un gouvernement, enfin un gouvernement ou une autorité judiciaire, religieuse et puis judiciaire ici, qui avait outrepassé les limites et qui avait jugé Paul de manière non légale. Donc, même si Dieu confère des droits, les autorités doivent agir dans le cadre de ce que Dieu leur commande. Donc, c'est la première chose, je pense, que Pierre souligne ici, c'est que Dieu contrôle toutes les autorités. L'apôtre Paul dit la même chose aussi. C'est lui qui les institue et leur confie une mission qu'ils doivent accomplir dans un cadre bien particulier. Et c'est pour la raison pour laquelle le chrétien est, tout le monde, tous les hommes sont exhortés à se soumettre aux autorités. Donc, deuxième point que je voudrais développer ici, c'est le devoir de soumission du chrétien à toute autorité. L'apôtre Pierre dit, je reprends le verset 13, « Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes. » Alors, bien qu'étrangers et voyageurs sur la terre, les chrétiens doivent se soumettre à toute autorité parmi les hommes. Et se soumettre, c'est un terme militaire qui veut dire « se placer sous l'autorité de ». D'un chef. On se place volontairement sous l'autorité d'un chef. Et partout où le croyant se tourne, il y a de l'autorité. Il est confronté à l'autorité. Alors, il dit toute autorité. Alors ici, bien sûr, dans le passage qui nous intéresse, il parle plus particulièrement de l'autorité civile, gouvernementale. Mais si vous regardez plus loin, verset 18, par exemple, il dit « Soyez soumis en toute crainte à vos maîtres ». Donc, on pourrait dire des... dans le domaine professionnel, social, il y a de la soumission à avoir. Chapitre 3, verset 1, dans le domaine familial, il dit « Femme, que chacune soit de même soumise à son mari ». Donc là, il y a un domaine d'autorité. Partout où il y a des relations de subordination qui sont installées, eh bien, le croyant doit se soumettre. La femme doit se soumettre à son mari, le serviteur doit se soumettre à son maître, les enfants doivent obéir à leur parents, sur ça, c'est aussi dans l'écriture, et on doit se soumettre, le croyant, les hommes doivent se soumettre au gouvernement dans lequel ils sont. Donc, c'est un appel à une soumission, quel que soit le type d'autorité. Quel que soit le type d'autorité. Et notez que dans les versets que nous lisons, l'apôtre Pierre, dit quel que soit leur rang, il dit soyez soumis soit au gouverneur, soit au roi comme souverain, donc c'est l'empereur, on pourrait dire, hein, on pourrait penser à un mouvement. Et certains pensent qu'il parle même de personnes qui agissent presque comme des dictateurs, c'est eux qui seuls décident, c'est le roi, le puissant souverain. Il faut être soumis à ces personnes, mais aussi même au gouverneur, d'accord, à des ministres, hein, qu'ils pourraient envoyer, qui sont envoyés pour faire régner l'ordre. Donc, on doit se soumettre, dit Pierre ici, quel que soit le rang, quelle que soit la hiérarchie, quel que soit le caractère moral ou non, hein, du gouverneur ou de la personne à qui on est subordonné. ici. Il dit pas, bon, vous allez vous soumettre si la personne est gentille, si elle se comporte bien. Verset 18, il dit, serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. Donc, il n'y a pas de condition ici à la soumission. Dès qu'il y a une relation de subordination, il y a automatiquement une soumission à avoir. Et le chrétien doit particulièrement, qui vit comme étranger et voyageur sur la terre, doit être sensible, extrêmement sensible, à cette attitude de soumission qu'il doit montrer, particulièrement, donc dans le texte, la partie qui nous intéresse, particulièrement aux autorités. Alors, quel est le fondement de cette soumission? Il dit, soyez soumis à cause de qui? À cause du Seigneur. Ou d'autres textes disent, pour l'amour du Seigneur. Donc, ce n'est pas la qualité du supérieur hiérarchique ou la nature du gouvernement qui motive la soumission. Mais ce qui motive la soumission, c'est Dieu. C'est la cause et l'honneur de Dieu. Le chrétien ne se soumet pas parce qu'il a peur de la réprimande ou de l'amende. Alors, c'est vrai que des fois, on voit le feu, on ralentit parce qu'on dit... Là, il y a un radar, hein, il y en a qui connaissent, hein, voyez. Il y a un radar, hein, ici. Donc on a peur, quoi, d'être flashé parce que ça fait mal au porte-monnaie. Mais c'est pas ça que Pierre demande ici. Il demande d'être motivé par Christ, par l'amour du Seigneur. C'est comme cela qu'on doit se soumettre. Ce n'est pas la peur du gendarme qui motive le chrétien. Mais c'est la crainte du Seigneur. C'est pas la crainte du gendarme, c'est la crainte du Seigneur qui doit motiver dans l'attitude de soumission. Et il est intéressant de voir que lorsque Paul parle de différents, l'apôtre Paul parle de différents pôles de soumission, dans Éphésiens ou dans Colossiens, il ramène cela toujours dans le cadre de la relation avec le Seigneur. Regardez Colossiens chapitre 3. Colossiens chapitre 3, ici. Colossiens chapitre 3, verset 18. Femmes, que chacune soit soumise à son mari comme il convient dans le Seigneur, voyez, rapport au Seigneur. Marie, que chacun aime sa femme et ne s'aigrisse pas contre elle. Enfant, alors là, il n'y a pas la notion de Seigneur, mais si vous regardez le texte parallèle dans Éphésiens, ben il dit que le mari doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église. Donc il y a un rapport encore très fort au Seigneur. Verset 20, enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable au Seigneur. Père, n'irritez pas vos enfants de peur de les décourager. Serviteurs, verset 22, soyez obéissants en toutes choses à vos maîtres selon la chair, non seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur, dans la crainte du Seigneur. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur, non pour les hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Et puis il termine, qu'est-ce qu'il dit? Servez Christ le Seigneur. Voilà le, et là, on est dans une section, l'apôtre Paul parle des soumissions qui doivent exister dans la vie du croyant. Et il le met toujours en rapport avec le Seigneur. Donc, la motivation, le fondement de la soumission, c'est le Seigneur, c'est le fait de chercher à plaire au Seigneur, à agir comme le Seigneur le commande. L'enseignement donc qu'il y a ici, c'est que le fondement de la soumission aux autorités se trouve dans la soumission au Seigneur, dans la soumission à Dieu. Et que la soumission à Dieu passe par la soumission aux autorités établies parmi les hommes. Toute soumission à Dieu passe par la soumission à une autorité terrestre. Toute. On ne peut pas dire « je suis soumis au Seigneur » si on est insoumis à une autorité terrestre. Ça ne marche pas. Pour faire un parallèle avec ce que l'apôtre Jean dit, quand il dit, on peut pas aimer, dire qu'on aime Dieu qu'on ne voit pas si on n'aime pas son frère que l'on voit. Eh bien, on peut dire la même chose. On ne peut pas dire qu'on est soumis à une autorité que l'on ne voit pas, Dieu, si on n'est pas soumis à une autorité que l'on voit. La manière, la preuve que je suis soumis à Dieu, c'est que je suis soumis, que c'est visible, que je suis soumis aux autorités, aux parents, si vous êtes un enfant, au mari, si on est une épouse, au patron, si on est un employé, aux autorités, si on est un citoyen, aux anciens, si on est membre de l'Église, partout, Dieu a établi ces choses. Et la preuve de notre soumission à Dieu, c'est la soumission dans toutes les autorités établies parmi les hommes. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul dit en Romains 13, 2, « Celui qui s'oppose à l'autorité humaine résiste à l'ordre que Dieu a établi. » Romains chapitre 13, verset 2. « Celui qui s'oppose à l'autorité gouvernementale, humaine, toute autorité établie par Dieu, il résiste à l'ordre, à l'autorité que Dieu a établie. » Donc le fondement de l'autorité, hein, c'est la soumission à Dieu. La nature, le fondement de la soumission, c'est aux autorités, c'est la soumission à Dieu. La nature, quelle est la nature de cette soumission, ce devoir de soumission du croyant? Eh bien, on a souvent de la soumission une idée un peu négative, hein. On a souvent une idée de quelque chose qui nous appelle à nous humilier contre notre volonté, à faire ce que l'autre veut, bien malgré nous. J'ai envie de faire ceci, mais voilà, hein, c'est lui, il veut ça, donc je suis obligé de me soumettre, mais c'est pas ce que je veux, quoi. Et on a un petit peu cette idée-là de la soumission. Mais notre texte montre qu'il s'agit de pratiquer ce qui est bien. C'est quoi la nature de la soumission? Regardez encore 1 Pierre chapitre 3 ici. Il dit, 1 Pierre chapitre 3, et au verset 14, il dit, je reprends, il dit, vous êtes soumis soit au gouverneur, comme envoyé par lui pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. Car, dit-il, c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence les hommes insensés. Autrement dit, ce que Pierre appelle ici pratiquer le bien, c'est se soumettre aux autorités. Quand il dit, ayez au milieu des païens une bonne conduite afin que là même où ils vous calomnient, ce qu'il appelle la bonne conduite, c'est la pratique du bien, et c'est en fait ici se soumettre. Donc, se soumettre, c'est pas quelque chose de passif, que je subis fatalement, c'est quelque chose de résolument positif, dans laquelle je suis engagé. Je recherche le bien. Je me soumets en recherchant le bien. C'est exactement ce que Paul dit à Tite, par exemple, je vous lis le passage dans Tite chapitre 2 verset 15 jusqu'à chapitre 3 verset 2. Écoutez, l'apôtre Paul dit, il demande à Tite d'enseigner des choses, il dit ces choses, exhorte, reprends avec une pleine autorité que personne ne te méprise. Et qu'est-ce qu'il faut dire? Il dit, rappelle-leur à l'Église d'être soumis aux magistrats et aux autorités. D'obéir, d'être prêt à, et là il développe, d'être prêt à toute bonne œuvre, de ne médire de personne, d'être pacifique, modéré, plein de douceur envers tous les hommes. C'est ça, être soumis. C'est pas juste être une carpette, là, et puis on fait rien. Et puis on nous met à droite, on est à droite, on nous met à gauche, on est à gauche. On nous dit, fais si je fais, on nous dit, fais. Non, il dit que c'est une attitude résolument positive dans laquelle je suis prêt à toute bonne œuvre, je ne médis pas, je ne cherche pas constamment à critiquer. Je suis pacifique, modéré dans mes propos et je suis prêt à agir. La soumission est présentée vraiment de manière positive ici. C'est pas une attitude passive et fataliste, mais active dans laquelle le bien est recherché. car c'est la volonté de Dieu, dit Pierre, qu'en pratiquant le bien. Soyez soumis, car c'est la volonté de Dieu, qu'en étant soumis, qu'en pratiquant le bien. Donc c'est la même chose ici, pratiquer le bien et être soumis. Rappelez-vous du prophète Jérémie, qui a envoyé une lettre à des Juifs qui étaient en déportation à Babylone. Et dans cette lettre, il va, de la part de Dieu, il va dire des choses pour contrer des faux prophètes qui peut-être essayaient, qui faisaient passer des idées mensongères dans la tête de ce peuple qui était en déportation. Et quand on est en déportation, qu'est-ce qu'on a envie ? On a envie de retourner dans son pays, dans sa ville, et peut-être au prix de, je sais pas, il faut se battre, etc., faire la révolution, j'en sais rien. Et Jérémie écrit, chapitre 4, Jérémie 29, vous pouvez regarder ce texte avec moi, Jérémie chapitre 29. Jérémie chapitre 29. Dieu donc donne cet oracle à Jérémie, qui le met par écrit, et qui envoie la lettre pour que le peuple puisse l'entendre. Jérémie chapitre 29 et au verset 4, il dit que la lettre était ainsi conçue, verset 3. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, à tous les captifs que j'ai emmenés. Vous voyez encore une fois que c'est Dieu qui est dans les gouvernements, il dit que c'est lui qui a emmené, hein. C'est pas Nebuchadnezzar qui est venu. Si, c'est lui qui l'a fait physiquement, instrumentalement, mais la cause première, c'est Dieu, hein. Il dit, ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël et à tous les captifs que j'ai emmenés à Jérusalem, à Babylone, bâtissez des maisons. Ils sont en exil, hein. Bâtissez des maisons, habitez-les, plantez des jardins et mangez-en les fruits. Prenez des femmes et engendrez des fils et des filles. Prenez des femmes pour vos fils et donnez des maris à vos filles afin qu'elles enfantent des fils et des filles. Multipliez-vous où vous êtes et ne diminuez pas. Verset 7, recherchez le bien de la ville où je vous ai amené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur parce que votre bonheur dépend du sien. Ah, ils sont étrangers, exilés, et Dieu dit, ne vous refermez pas sur vous-même. D'accord? Mais vivez. Il avait promis plus loin, verset 10, il dit, dès que 70 ans seront passés, je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant de ce lieu. 70 ans. Mais il dit, vous avez fait quoi pendant 70 ans? Vous vivez. Et vous cherchez le bien de cette ville, de ce gouvernement qui vous a déporté. Vous allez prier pour eux. Vous allez prier pour eux. Vous n'allez pas vous révolter contre eux. Vous allez prier pour eux et vous allez chercher le bien, leur bien. Parce que votre bonheur, dit Dieu, pendant ces 70 ans, dépend du bonheur de cette ville. C'est intéressant de voir ça quand même, hein. Et donc quelqu'un a dit ceci, j'ai trouvé ce commentaire dans la Bible à noter, il dit que les habitants d'un même sol sont solidaires entre eux. Ils sont trop solidaires entre eux pour que le malheur de l'un puisse faire le bonheur des autres. Autrement dit, il dit, si le peuple prie pour la destruction de ses oppresseurs, il sera lui-même détruit. S'il demande à Dieu qu'il ne pleuve pas sur leur terrain, il n'aura pas non plus de pluie sur leur terrain. S'ils restent et ils disent on ne peut faire, ils vont disparaître. Et donc il dit on est solidaires sur un même sol. Étrangers voyageurs, certes, mais solidaires sur le même sol. Et mon bonheur dépend du bonheur du pays dans lequel je vis. Je dois prier pour cela. Et il ajoute, l'enfant de Dieu doit faire descendre la bénédiction sur la société qui l'a reçue et qui le protège. Quand on est étranger et qu'on est en France, on peut pas dire, moi, gouvernement français, moi, je suis des îles, la France, rien à faire. L'enfant de Dieu ne parle pas comme ça. Il ne parle pas comme ça. Il est intéressé, bien, même s'il sait que ces choses vont disparaître, même s'il sait qu'il est là que pour un temps, même s'il sait que ce qui est voté, ce n'est pas la volonté de Dieu. Il prie pour ce gouvernement. Il prie pour ce pays. Et il recherche le bien. Quand il peut faire du bien, il peut être engagé au bien dans sa société, il s'engage dans le bien. Ce que l'Écriture dit ici. On peut penser à Daniel qui n'avait pas voulu se souiller avec les mets du roi. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas dit, bah, je ne mange pas ce genre de nourriture, je suis un enfant de Dieu, je suis un juif. Ça, c'est pas bon, c'est interdit, faites ce que vous voulez, moi, je touche pas. Il a dit au chef, il a dit, je ne veux pas prendre ça, je ne veux pas me souiller. Mais voilà ce que je te propose. Donne-moi des légumes et tu regardes. Il n'a pas été seulement dans l'opposition, il a été dans la proposition. Et quand on peut proposer quelque chose, c'est ça rechercher le bien. On peut dire non à quelque chose, parce que c'est contre la volonté de Dieu, mais on peut dire, mais en retour, je peux faire cela, je peux vous aider avec ça. Et c'est cette attitude que l'étranger et voyageur chrétien doit avoir au sein de la société dans laquelle il vit. L'apôtre Pierre a été parfois confronté, voilà, à des moments où il a dû prendre aussi de telles décisions. Donc ici, je reviens pour dire que la soumission, la nature de la soumission, c'est qu'elle est résolument positive. Elle recherche le bien. On n'est pas dans l'opposition, dans la confrontation. Elle recherche le bien de la société dans laquelle elle est. Et je voudrais terminer avec ça parce que le temps m'est compté. La soumission a néanmoins des limites. La soumission a néanmoins des limites. Parce que j'entends vos questions, peut-être, on se dit, mais est-ce qu'on peut se soumettre à tout ce qu'un gouvernement nous commande de faire? Alors, il s'agit de ne pas être dans le... Nous, on n'est pas dans le syndicalisme. Donc, on n'est pas dans le syndicalisme. Il est, on a dit, dans la recherche toujours du bien de la société dans laquelle il vit. Dans la soumission de principes dans tout ce qu'on lui demande. Mais, il peut arriver que dans un gouvernement, des choses soient demandées et qui soient fondamentalement contraires à la parole révélée de Dieu. Et que doit faire le chrétien? Il y a des gens qui ont, dans l'histoire, du cours de l'histoire, ont saisi Romains chapitre 13 en disant, voilà, la Bible dit, soyez soumis à toute autorité, de ne pas résister, celui qui résiste à l'autorité, eh bien, il résiste à Dieu. Et donc, si le gouvernement demandait de faire des choses qui sont mauvaises, eh bien, peut-être ne les ont-elles pas fait, mais elles se sont pas non plus opposées. On pense aux déportations, il y a toute cette histoire, dans la Seconde Guerre mondiale, tout ce qu'il y a pu avoir, puis dans d'autres pays, d'autres choses qu'ils peuvent avoir. Mais encore aujourd'hui, dans des lois qui peuvent être votées, et qui sont fondamentalement contraires à la parole de Dieu, que doit faire le croyant? Que doit faire le croyant? Mais l'Écriture enseigne clairement que si une loi est fondamentalement contraire à ce que Dieu dit clairement dans sa parole, c'est-à-dire que l'accomplir c'est un péché, eh bien, l'enfant de Dieu ne doit pas se soumettre. Parce qu'il pécherait contre Dieu. De manière générale, c'est péché que de ne pas se soumettre aux autorités. Mais il peut arriver, et c'est très très rare, mais ça peut arriver, que c'est aussi péché de se soumettre si ce qui est demandé est contraire à la parole révélée de Dieu. L'apôtre Pierre, rappelez-vous, dont au début de l'histoire de l'Église, il a prêché l'évangile, ils ont été arrêtés, et puis on leur a défendu de prêcher en ce nom-là. Et qu'est-ce qu'ils ont dit dans Actes chapitre 4? Ils ont dit, jugez-vous-même, doit-on obéir à Dieu ou aux hommes? Ben, ils les ont fait battre, ils les ont mis en prison, et puis interdiction formelle de prêcher l'évangile. Et au chapitre 5, qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait à votre avis, Pierre? Ben, ils ont continué à prêcher l'évangile, ils n'ont pas obéi, ne se sont pas soumis à ce commandement et ils ont été arrêtés. Et les chefs du Sanhédrin disent ceci, ils disent, au chapitre 5 et au verset 28, ils disent, ne vous avons-nous pas défendu expressément d'enseigner en ce nom-là. Et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Il avait dit, jugez-en vous-même. Vous me posez un dilemme. Vous me dites, jugez-en vous-même. Je vais obéir à Dieu ou aux hommes? Sinon, Dieu n'est pas Dieu. Si je dis que je crois en Dieu, mais que je... Ben oui, mais parce que les hommes ont voté quelque chose qui est contraire à la parole de Dieu, ben je me soumets à ce que les hommes ont dit. Eh bien, je dis que Dieu n'est pas Dieu. Je dis que l'homme est Dieu. D'accord. Il dit, jugez-en vous-même. J'obéis à Dieu ou j'obéis aux hommes? Ils n'ont pas répondu à la question. Ils ont continué leur ministère. Ils sont arrêtés. Ils disent, eh bien voilà, la réponse, c'est que il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Daniel a eu la même chose. Rappelez-vous des sages-femmes en Égypte, d'accord, qui n'ont pas respecté l'ordre de qui? De Pharaon. C'était pas d'un premier ministre, de Pharaon. Elles ont bravé l'ordre de Pharaon. Et la Bible dit que Dieu a béni leur maison. Mais rappelez-vous de Daniel, plusieurs fois. Daniel à qui on avait demandé de ne plus prier. Ils ont fait voter une loi. Les gouverneurs ont fait voter une loi. Voilà, c'est passé chez les députés, sénateurs, constitution, c'est passé dans la loi. Ils ont voté que quiconque prie un autre Dieu que le roi, il sera jeté dans la fosse au lion. Et la Bible dit, lorsque Daniel a lu le décret, c'est un décret, il a lu le décret, il a continué à prier fenêtre ouverte comme auparavant. Le texte dit exactement comme ça, comme auparavant, sans rien changer. Il a ostentatoirement désobéi à ce commandement qui était contraire à la parole de Dieu, au risque de sa vie. Ça veut dire qu'il y a des moments dans l'histoire, dans la vie d'un enfant de Dieu, où il faudra prendre des risques. Mais la soumission à Dieu, à ce moment-là, n'est qu'à ce prix-là. Elle n'est qu'à ce prix-là. Et on ne pourra pas faire autrement. On ne pourra pas toujours passer entre les... Écoute, je ne vais pas trop dire ça quand je prêche, pas trop faire ceci, pas trop faire cela, pour essayer d'être en équilibre. Il y a un moment où si Dieu dit une chose dans un sens et que l'État va dans l'autre sens, il faut mourir. S'il faut. Il faut demander à Dieu la grâce de pouvoir obéir à sa parole. À sa parole. Et pas aux hommes. Mais c'est vrai que dans notre histoire, ça n'arrive pas, ça n'arrive pratiquement pas. D'accord ? Déjà, si nous sommes soumis aux autorités partout où il faut, on obéit à la parole de Dieu. Mais quand il y aura des cas comme cela, il faut être extrêmement vigilant là-dessus. J'avais un troisième point, mais je laisserai pour une autre fois, chers frères et sœurs. C'est trop important pour passer vite là-dessus. Mais je termine en disant que le croyant ne doit pas se soumettre à toute loi qui est contraire à la parole de Dieu. Donc c'est là sa limite. Mais il doit tout faire, toujours, pour ne point résister au commandement de Dieu. Deux points d'application. C'est que les institutions gouvernementales sont une manifestation de la grâce de Dieu. Dieu aurait pu ne pas instituer de gouvernement et cela aurait été le chaos total. N'importe quel gouvernement est meilleur que pas de gouvernement du tout. Et donc, plutôt que de critiquer les gouvernements, nous devons apprendre à prier pour eux. Plutôt que de dire, c'est la dictature, on m'impose ceci. Est-ce que j'aurais mieux fait? Peut-être c'est une dictature. Peut-être c'est exagéré. Peut-être. Tout ce que vous voulez. Mais c'est pas. L'Écriture ne nous demande pas d'agir ainsi, comme tout le monde agit. Il nous demande de faire le bien. C'est la volonté de Dieu. Qu'en faisant le bien, il dit, et là j'ai pas le temps de développer ça, mais il dit, vous clouez le bec aux détracteurs. C'est pas en faisant la révolution qu'on cloue le bec aux détracteurs. C'est en ne se soumettant quand Dieu nous demande de nous soumettre, même aux autorités, qui prennent des décisions qui ne nous plaisent pas. Donc nous devons prier pour les autorités. Comme l'apôtre Paul le demande, j'exhorte avant toute chose, de faire des prières, des supplications, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité afin que nous menions une vie paisible et tranquille. C'est pas dans la révolte qu'est la vie paisible et tranquille. C'est pas dans la mauvaise pensée à l'égard du gouvernement qu'est la vie paisible et tranquille. C'est dans la prière que l'on peut avoir pour eux, pour que Dieu dirige leur cœur. Parce que c'est Dieu qui les a placés. Seigneur, toi qui as placé ce gouvernement, donne-lui la sagesse pour qu'il agisse et qu'il fasse le bien et qu'il restreigne le mal. Et puis, deuxième point, il n'y a aucune forme de gouvernement politique dans laquelle l'Évangile ne puisse progresser. On peut croire ça. On peut croire quoi? Ben, chez nous, c'est bien parce qu'on est dans un truc démocratique. Là-bas, c'est machin. Là, l'Évangile ne peut pas, c'est trop difficile. Non, il n'y a pas de... Sous Néron, ça poussait. D'accord? Donc, l'Évangile n'est pas restreint par un type de gouvernement. C'est pour ça que notre combat, ça ne doit pas être le type de gouvernement. Même si, quand nous votons, nous avons une responsabilité, bien sûr, on ne va pas faire n'importe quoi. Mais il ne faut pas croire que c'est le type de gouvernement qui fait l'Évangile. L'Évangile transforme. C'est une puissance de Dieu pour sauver, le salut, pour sauver quiconque croit. Et les gens sont sauvés autant sous Néron que sous le gouvernement le plus libéral qui soit. Que le Seigneur nous aide, qu'il nous aide à être soumis comme sa parole nous le commande. Et nous voulons, comme l'apôtre Pierre le dit ici, agir, on n'a pas, en étant des serviteurs de Dieu. Bien-aimés, dit Pierre, je vous exhorte comme étrangers voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. C'est pourquoi soyez soumis à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par eux pour punir ceux qui font le mal et approuver les gens de bien. Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisez au silence les ignorants et les insensés. Étant libre, dit-il, sans faire de votre liberté un prétexte, un voile qui couvre plutôt la méchanceté, mais agissant, il dit, comme des serviteurs de Dieu. Prions. Nous te remercions, Seigneur notre Dieu, pour ta parole et te prions que tu nous aides à vivre comme les citoyens du ciel, non pas en regardant avec condescendance autour de nous, mais en étant animés d'un esprit d'amour pour tous ceux qui ne te connaissent pas, en cherchant à vivre l'Évangile au milieu même de cette société où tu nous as placés. Non pas en nous cherchant simplement à s'opposer à elle, mais à obéir, à nous soumettre aux autorités que tu as établies. Tout en cherchant, en sachant que c'est à toi que nous obéissons en premier. Nous n'obéissons pas à une autorité parce qu'elle est une autorité. Nous y soumettions parce que c'est toi qui nous le commandes. Et parce que en nous soumettant à elle, nous nous soumettons à toi. Aide-nous à comprendre ces choses par ton esprit et à les mettre en pratique dans notre vie. Amen.